Chapitre 19. Il était très tôt ce matin-là, ou très tard, selon qu'on était debout depuis peu ou pas encore couché. Alexis entra dans le bureau en se massant les tempes. Il était fatigué, comme toujours. Des nuits interminables. La pièce sentait le café, et Alexis nota aussitôt qu'il y faisait très frais. Son drapeau des Giants pendait, décroché d'un côté, flottant dans le courant d'air. La fenêtre était entr'ouverte. Ludivine était assise derrière son bureau. Alexis se figea. Il vit immédiatement le sourire obscène qui lui déformait la gorge. Une bouche terrifiante, énorme, aux lèvres maculées de carmin vif. Une bouche qui avait vomi des litres de sang sur le chemisier de la gendarme. Ses grands yeux bleus étaient ouverts sur le néant. Il fixait un point disparu, visible seulement des morts. Alexis se précipita sur elle, et tous ses muscles se contractèrent en même temps dans un élan de panique. Il voulut hurler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il l'attrapa et la colla contre lui. Ludivine était bouillante, plus chaude que la vie. Alors, il se jeta sur le téléphone pour appeler des secours. Aucune tonalité. Sans bien savoir pourquoi, il fonça à la fenêtre, qu'il ouvrit en grand pour crier dans la cour, et à nouveau, aucun son ne sortit de sa gorge. La rue était calme, sans le moindre son. Il n'y avait plus aucune lumière allumée dans les tours au loin. La ville tout entière était figée. Une main se posa sur l'épaule du gendarme, qui sursauta. Ludivine se tenait face à lui, debout. Le sang coulait encore par l'orifice atroce qui lui ouvrait le cou en deux. « Arrête-les » dit-elle d'une voix poisseuse, noyée par le liquide.
« Arrête-les avant qu'ils nous tuent tous !»
Il avait envie de hurler. Mais il en était incapable. Ludivine le serra de ses mains avec une force prodigieuse, et elle l'embrassa. Du sang se mit à couler dans sa bouche, et Alexis essaya de se débattre, mais la jeune femme avait une force exceptionnelle. Sa langue se fraya un passage, et se mit à grossir, encore et encore, jusqu'à remplir toute la bouche d'Alexis, jusqu'à l'étouffer. Il essaya de la repousser en vain. Elle le pénétrait totalement, elle l'envahissait, elle allait le tuer. Le faire imploser. Alexis ouvrit les paupières d'un coup, le souffle court, le front moite. Il était presque 9 heures. Il reposa sa tête sur l'oreiller un bref instant, épuisé. Les cauchemars se répétaient inlassablement, nuit après nuit. D'habitude, le jeune gendarme se mettait devant sa console de jeu pour s'abrutir, pour jouer jusqu'à l'épuisement, jusqu'à s'effondrer sur son canapé, pour ne pas avoir à affronter le vide de son lit, le vide de sa vie, au moment d'éteindre la lampe de chevet et de se plonger dans les ténèbres, face à lui-même, pour tenter de dormir. Mais cette nuit, il était rentré à 4 heures, après avoir assisté au découpage méticuleux de 3 personnes. Il s'était étendu sur son matelas sans même se déshabiller complètement. Une douche. Il avait besoin d'une douche et de vitamines pour tenir le coup. Pour rester lucide. Soudain, il eut envie de se faire une promesse. Une fois que tout ça serait terminé, il prendrait 15 jours de vacances et il partirait. Sur une île paradisiaque, quelque part dans l'océan Indien, pour oublier, pour se ressourcer, pour tenter de trouver le sommeil. Il partirait avec une fille, peu importe laquelle pour peu qu'elle soit jolie. Pour la sauter, pour ne pas être seul le soir, au moment d'éteindre la lumière. Il sortait à peine de sa salle de bain lorsque son portable sonna. « Alex, tu es où ?» La voix de Ludivine. Pendant un court instant, l'entendre lui fit du bien. Son cauchemar lui avait laissé une drôle d'impression. « J'arrive. J'ai un peu tardé hier soir avec Mickey. On file dans l'Oise. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» Ils ont recommencé. Le cœur d'Alexis s'arrêta un bref instant. Le monde demeura suspendu le temps que l'information accède à son cerveau. Alors que le gendarme refusait de l'accepter. « Ça va trop vite, » dit-il. « D'habitude, on passe des jours ou des semaines à éplucher les rapports, à rassembler les pistes. Normalement, on a le temps de remonter jusqu'à eux. Ils vont beaucoup trop vite, ils nous dépassent. »« Je sais. On ignore s'il y a des victimes. Pour l'heure, les gendarmes sur place n'ont trouvé que le dessin. »« Le étoile E ?»« Oui, avec des bougies. Une sorte de rituel ou je ne sais quoi. »« On file sur place avec Seignon. Tu peux venir ?» Je suis là dans 5 minutes, attendez-moi. Et Michaelis ? Seignon vient d'appeler à son hôtel, il est en route. Ludivine conduisait, presque une heure de route depuis Paris. Ils venaient de monter une petite côte et approchaient de Chantilly, lorsqu'un panneau leur indiqua qu'il fallait bifurquer sur la droite, sur un chemin qui filait en pleine forêt. Ils roulèrent encore près d'un kilomètre sur une petite route ombragée, s'enfonçant de plus en plus profondément dans la végétation. « Vous êtes sûr que c'est un hôpital ?» s'étonna Alexis. « Isolé au milieu de la nature ?»«
Affirmatif !» répliqua Seignon. « Le Bois Larry, un centre de médecine et réadaptation pour enfants, géré par la Croix-Rouge. »«
Pour enfants ? Ici ? Ils doivent être contents, les gosses !» La voiture ralentit en approchant d'un domaine protégé par un haut mur de pierre. Derrière le portail en acier s'étendaient plusieurs bâtiments anciens, de briques rouges, aux toits escarpés et aux fines fenêtres noires. Une architecture de manoir anglo-normand, avec des dépendances, nombreuses, et la bâtisse principale, qui surplombait l'ensemble un peu plus loin.
« Continue !» dit Seignon à Ludivine. « Il y a un accès direct un peu plus loin d'après ce qu'on m'a dit. »
À quelques centaines de mètres, la route se terminait par un petit parking de terre séchée, face à un complexe plus moderne qui avait été rattaché au manoir au fil du temps. On devinait aisément deux ajouts, l'un relativement récent avec ses façades de tôle et de verre qui tranchaient sur le corps principal, l'autre vieux de plusieurs décennies. Alexis n'aima pas cet endroit. Il n'avait jamais apprécié les hôpitaux, mais celui-ci, perdu dans la forêt, avec sa propriété ancienne, effrayante comme une maison hantée, ne lui inspirait rien de positif. Un trafic de la gendarmerie attendait devant la passerelle qui conduisait à l'entrée. Des croassements de corbeaux accueillirent les trois enquêteurs dès qu'ils claquèrent leurs portières. Alexis en repéra deux, sur des branches, au-dessus d'eux, gros comme des poules. Ils agitaient leurs petites têtes par saccades pour mieux étudier le paysage. Pour mieux chercher de la nourriture, oui. Une charogne. Un cadavre. Alexis inspira à plein poumon pour se sortir ses idées noires de l'esprit. Deux gendarmes de la brigade de Chantilly les saluèrent.
« La dégradation nous a été signalée ce matin vers 7h50 », expliqua le premier. « Nous nous sommes rendus sur place pour constater les dégâts et dresser un PV, et mon collègue a tout de suite reconnu le motif que vous recherchiez. »
L'autre militaire, un petit homme roux, baissa la tête timidement.
« C'est à l'extérieur ?» demanda Alexis.
« Oui, dans le parc, vous allez voir. »«
Vous avez fouillé les environs ?» sans qu'il eût divine.
Comme vous nous l'avez demandé par téléphone. Nous avons aussitôt sondé tout le périmètre, il n'y a rien de particulier. »
« Et dans les locaux ?» demanda Alexis.
« Le personnel médical n'a rien remarqué. »
Une voiture ralentit dans leur dos, en approchant, et Richard Michaelis sortit de son véhicule de location pour suivre le petit attroupement, sans dire un mot. Une jeune femme en blouse blanche vint les accueillir et les fit entrer, un peu mal à l'aise. Ils traversèrent la partie moderne de l'hôpital, étrangement calme, avant de longer plusieurs salles de classe où les élèves écoutaient attentivement leurs professeurs.
« Vous traitez exclusivement des enfants ?» demanda Alexis à l'infirmière.
« Oui, de 3 à 16 ans. »«
Qu'est-ce qu'ils ont ?»«
Nous sommes spécialisés dans le traitement des paralysies ou lésions cérébrales, les troubles orthopédiques et la rééducation des problèmes des fonctions cognitives. »
« Et ils dorment là ?»
Nous sommes équipés pour.
Combien en avez-vous?
Presque une centaine. Nous sommes quasiment à notre capacité maximale.
Nous aurions besoin de la liste complète de vos patients, intervint Michaelis.
Ah, ce n'est pas protégé par le secret médical?
Nous ne voulons pas savoir pourquoi ils sont là. C'est différent.
Le ton de sa voix était impératif, et l'infirmière n'osa pas le contredire.
Ainsi que les noms de tout le personnel qui travaille ici.
Elle hocha la tête comme une enfant obéissante devant son maître d'école. Après être descendus de plusieurs étages, ils sortirent au grand air dans un parc et longèrent le manoir principal avant que l'infirmière se fiche devant la porte d'entrée.
Voilà.
De part et d'autre de la porte en bois, le même dessin recouvrait la pierre. Étoile E. Un tracé assez net, d'environ 50 cm de diamètre. Rouge. Un rouge sombre qui avait peu coulé.
« Appelez les gars de l'identification criminelle, » commanda Alexis dès qu'il vit les motifs.
« Tu crois que c'est du sang ?» fit Ludivine.
« Et il aurait raison, »
rétorqua Michaelis, aussitôt, en désignant les deux grosses mouches qui s'affolaient, en butinant le liquide.
Un sang peu oxygéné. Peut-être assez vieux. Pourquoi pas celui de la fille de Louftienne ?
On va demander une comparaison ADN, approuva Alexis. Vous croyez vraiment que c'est du sang ? Demanda l'infirmière d'un air angoissé. À quelle heure vous avez découvert ces signes ? Répondit Alexis.
Vers 7h15.
Nous étions pas mal occupés, alors il a fallu un peu de temps avant que nous prévenions les gendarmes. Et puis, c'est une dégradation, mais ce n'est pas non plus comme si on avait cassé une fenêtre. C'est parce qu'une des professeurs a reconnu le même dessin que celui du fou qui avait poussé ses gens sous un train l'autre jour qu'on a appelé.
Et il n'y avait rien hier, vous êtes sûr ?
Certaine. Nous passons souvent par ici. Il n'y avait rien en fin de journée. Ensuite, les grilles sont fermées et les enfants sont couchés. Ça ne peut venir que de l'extérieur. Quelqu'un qui est passé par-dessus le mur.
Des caméras de surveillance quelque part ? Questionna Seignon.
Non. Personne n'a rien vu de particulier ? Intervint Ludivine. L'infirmière, sollicitée de tous les côtés, répondit d'un signe de tête par la négative. Ludivine la prit par le bras, avec un sourire amical qui se voulait le plus rassurant possible. Venez, nous allons voir ensemble comment récupérer les listes de noms que nous vous avons demandées. Elle adressa un clin d'œil à Alexis. Les hommes étaient seuls pour discuter. Alexis fit un tour sur lui-même. L'accès au parc était aisé pour n'importe qui d'un peu déterminé. S'il n'y a pas de cadavre, alors pourquoi ils nous préviennent ? S'interrogea-t-il à voix haute.
Ils marquent ce lieu ? Proposa Seignon.
Dans quel but ? Faire leur marché ? Se prévenir entre eux ?
Ce ne serait pas un signe si évident si c'était le cas, opposa Michaelis. Au contraire, ils voulaient qu'on le trouve. Une revendication ? Un marquage de territoire ? Une fausse piste pour nous éloigner de la vérité ? Peut-être que l'un d'entre eux est passé par cet endroit quand il était môme.
Ils ne sont pas idiots. Jamais ils ne s'amuseraient à nous signaler que c'est un endroit important à leurs yeux, fit Alexis.
Pourquoi pas ? Insista le criminologue. Les tueurs aiment parfois qu'on sache d'où ils viennent, ce qu'ils ont traversé. Ils aiment tuer dans des endroits qui leur évoquent quelque chose, même si cela doit donner des indications sur leur personnalité. Un bon nombre d'entre eux aiment communiquer. C'est ce qu'a fait le fantôme à Louftienne, je vous rappelle. Ce serait trop facile s'il était passé par cet établissement,
soupira Seignon. Il doit y avoir des milliers d'enfants dans les archives. Des milliers. Combien de chances de trouver le bon ?
En affinant grâce au profil psychologique que vous avez dressé. On ne sélectionne que ceux qui ont aujourd'hui entre 25 et 40 ans, pour être un peu plus large. Et on vérifie s'ils ont des casiers judiciaires. Ce serait déjà un bon début. Mais je ne crois pas que ça puisse être aussi aisé. Le fantôme est un type malin. Il ne prendrait pas ce risque.
Michaelis fixait les deux dessins peints en rouge.
Encore une fois, ne sous-estimez pas le pouvoir de la violence. Elle vous fait parfois commettre des actes insensés. Tout comme les fantasmes. Ils obéissent à des lois profondes qui défient la logique, le bon sens. Cet endroit doit avoir une signification pour qu'il vienne ainsi le marquer comme un territoire. Rappelez-vous le sens de ces signes. Ils veulent unir. Ils cherchent à rassembler.
Alors quelqu'un dans le personnel pourrait les intéresser ? Proposa Alexis.
Peut-être. Mais ça manque de discrétion. Ce serait surprenant. Alors qu'il est, et surtout après le coup d'éclat de Joseph Selima, il se doute que tout le monde connaît ce symbole. Cela ressemble plus à de la provocation. Et comme ils ne font rien au hasard, ils n'ont pas choisi ce lieu sans raison.
Michaelis se tourna alors vers les deux gendarmes locaux. Il n'avait pas perdu une miette de la conversation, les yeux grands ouverts.
Cet endroit a toujours servi d'hôpital pour enfants. Ça n'a jamais été une unité psychiatrique par hasard ?
J'en sais rien, répondit le premier. Il faudrait demander...
Le roux l'interrompit. C'est sa fonction depuis les années 50. Avant ça, il est resté inoccupé pendant près de 10 ans.
Tant que ça ? Un si bel endroit. Et vous savez pourquoi ?
Le gendarme prit une profonde inspiration. À cause de ce qui s'y était passé. Michaelis et Alexis se regardèrent, intrigués.
C'est-à-dire ?
Insista le criminologue.
C'est une partie de l'histoire que les gens du coin n'évoqueront pas aisément. Tout le monde préfère l'oublier. La plupart des documents ont été détruits, comme partout où ça s'est produit. Et les langues des anciens ne se délient pas facilement à ce sujet. Même sur Internet, on en parle assez peu.
Quoi donc ? Voulut savoir Alexis. Pendant la guerre, des Lebensborn avaient été installés un peu partout en Europe. Et il y en avait un seul dans toute la France. Vous êtes juste devant.
Michaelis recula d'un pas et leva les yeux vers le manoir. Son visage devint encore plus sombre qu'à l'accoutumée.
C'est quoi un Lebensborn ? Demanda Alexis.
Michaelis serra les dents avant de répondre, creusant ses joues.
Le lieu de toutes les pires fornications et expériences, dit-il tout bas. C'était encore une rumeur, jusque dans les années 70. Personne ne voulait croire que les Lebensborn avaient été réels. Voilà qui vient donner une toute autre dimension à l'acte de nos chers tueurs.
Je ne comprends pas. Qui faisait ça ?
Les nazis, mon cher. C'était un établissement pour propager la race aryenne.